Le voyage de Saint Déodat.
Ceci est l'histoire d'un village situé en pleine campagne française qui voulut un beau jour devenir un port de mer. Et vous verrez comment il y est arrivé. Bah, pas tout seul, à vrai dire, mais avec l'aide d'un petit garçon. Bien sûr, vous ne me croyez pas. Vous n'imaginez même pas qu'une agglomération située dans le Val-de-Loire ait pu quitter comme ça son lieu d'origine pour aller se fixer sur la côte atlantique. Et c'est pourtant ce qui est arrivé. D'ailleurs, pour que vous sachiez bien que je ne vous mens pas, je vous dirai tout de suite que cette histoire est la mienne. Mais oui, parfaitement, c'est à moi qu'elle est arrivée. Le village en question, c'est moi-même. Je m'appelle Saint Déodat. À l'époque dont je vous parle, c'était un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, je comptais un peu moins de 2000 habitants et je m'étendais sur un peu plus d'un kilomètre, quelque part entre Blois et Beaugency, le long de la rive gauche de la Loire, donc au sud, du côté de la Sologne, pas très loin de Chambord. Il faut que vous sachiez aussi que je suis fort ancien, car j'existais déjà du temps de la Gaule romaine. J'ai même vu passer l'armée de Jules César. Je crois la voir encore. Elle empruntait une route, je veux dire une route pour l'époque. Aujourd'hui, ce serait un sentier. Une route, dis-je, qui est devenue depuis l'une de mes petites ruelles. Plus tard, le roi François Ier s'est arrêté pour y dormir dans une de mes maisons, qui était celle de la Belle Ferronnière. Catherine de Médicis, elle aussi, est passée par moi. Il est vrai que celle-là, elle est passée partout dans la région. Plus tard encore, Madame de Sévigné m'a vu comme elle descendait ou remontait la Loire en bateau, je ne sais plus au juste. C'est qu'en effet, de ce temps-là, la Loire était navigable jusqu'à ma hauteur, et même encore plus en amont, jusqu'à Orléans. Seulement voilà, le grand roi Louis XIV a eu besoin de bateaux, de beaucoup de bateaux, pour se faire une marine. Alors il lui fallait du bois, beaucoup de bois. Pour en avoir, il a fait abattre des arbres, beaucoup d'arbres, dans le massif central. Le terrain granitique n'étant plus protégé par la végétation, s'est alors effrité, érodé, usé. Il est parti en tout petits morceaux qui, entraînés par les eaux de pluie, ont ensablé le lit de la Loire. Et c'est ainsi que celle-ci a cessé d'être navigable. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas encore d'écologistes pour dire au roi qu'il faisait des bêtises. Je soupçonne d'ailleurs que s'il y en avait eu, le roi les aurait fait mettre en prison, car pour lui, ce qui comptait avant tout, c'était la grandeur de la France. En souvenir du temps où les bateaux de marchandises venaient à moi de Nantes, de Saint-Nazaire ou de plus loin encore, il y avait sur mon quai, ici et là, de grandes dalles portant chacune un gros anneau de fer où les embarcations pouvaient venir s'amarrer. Elles existent encore, ces dalles. Seulement, les gros anneaux ne font plus que se rouiller, car ils ne servent plus à rien ni à personne. Il y avait enfin, à quelque distance de moi, en aval, mais quand même dépendant de ma commune, un château, le château de Cracougnas, habité par le comte du même nom. Ce n'était pas un grand château comme Chenonceau, Amboise ou même Courcheverny, mais un vrai château tout de même, quoiqu'un peu délabré, avec trois tours qui rappelaient les anciennes forteresses. D'ailleurs, moi-même, Saint Déodat, j'avais des murs, mais oui, de vrais petits remparts qui donnaient sur le fleuve avec de petites tours, en souvenir de l'époque où j'étais fortifié, moi aussi. Mais écoutez maintenant ce qui m'est arrivé. Le 16 juillet 1935, le comte de Cracougnas est arrivé dans son château, comme tous les ans à la même époque, pour y passer les vacances d'été auprès de sa mère qui, elle, y demeurait toute l'année. Cette fois cependant, il n'arrivait pas seul. Il amenait avec lui une famille parisienne qui se composait de trois personnes. Monsieur Barbichou, qui avait de la barbe sur les joues. Madame Barbichou, qui avait aussi de la barbe, mais pas beaucoup. Et le petit Paul Barbichou, qui n'avait que 10 ans et pas de barbe du tout. Tout ce monde a été accueilli par la comtesse de Cracougnas et logé dans la vieille demeure. C'était le comte en personne qui avait invité cette famille. Il avait pour cela d'excellentes raisons. Il voulait emprunter une grosse somme d'argent à M. Barbichou afin de restaurer le château de ses ancêtres et le transformer en hôtel. Après cela, disait-il, en louant des chambres pour l'été, il pourrait regagner très vite assez d'argent pour rembourser sa dette en payant même des intérêts. Madame Barbichou était favorable à ce projet. Elle était très flattée, d'abord, de pouvoir aider une famille noble à se sortir d'une situation médiocre. Et puis, le comte lui plaisait beaucoup parce qu'il était poli, bien élevé, bien habillé, rieur, soigneux de sa personne, parce qu'il avait toujours des chaussures bien cirées, le menton bien rasé, les ongles propres et qu'il sentait bon. Monsieur Barbichou, lui, hésitait encore. D'abord, plutôt que de venir à moi, il aurait préféré passer son congé annuel au bord de la mer, comme l'année passée. Ensuite, il ne partageait pas l'admiration de sa femme pour le comte de Cracougnas. Mais le plus déçu, c'était le petit Paul. Il n'aimait, lui, que la mer. Il se rappelait avec regret le sable fin, les bains dans l'eau salée, les coquillages, les rochers, les promenades en bateau, les crabes, les crevettes, les poissons, les méduses, toutes les bêtes curieuses qu'on peut voir sur une côte. De plus, puisqu'il faut tout vous dire, il était jaloux, petit Paul. Il détestait le comte de Cracougnas. Il trouvait que ce monsieur tenait beaucoup trop de place dans la famille et que ses parents lui prêtaient beaucoup trop d'attention. Mais il n'y avait rien à faire, c'était maman qui commandait. Et l'opinion de maman, c'était que le séjour au bord de la mer était trop coûteux, que les gens y étaient trop bêtes, et que d'ailleurs la brise marine est très mauvaise pour les tempéraments nerveux. Or, tous les Barbichous étaient de grands nerveux. Petit Paul n'avait plus qu'à se consoler en prenant avec son papa quelques bains dans la Loire, car il y avait à ma hauteur, dans le fleuve, une île que l'on pouvait gagner à pied sec en été, quand les eaux étaient basses, avec une plage de sable. Dans les derniers jours de septembre, à l'époque où sur l'océan d'énormes vagues se ruent à l'assaut du rivage, monsieur et madame Barbichou, accompagnés du comte, sont allés chez le notaire, mon notaire, dont l'étude s'ouvrait dans ma rue principale, pour signer un papier comme quoi le couple prêtait au comte beaucoup, beaucoup d'argent, je ne sais plus combien. Après cela, tout le monde est reparti pour Paris, ne laissant au château que la vieille comtesse. Un an plus tard, c'est-à-dire en juillet 1936, le comte est revenu, ainsi que les Barbichoux, mais ces derniers, cette fois, n'ont pas logé dans le château, puisque de grands travaux devaient s'y effectuer. Ils ont loué deux chambres à l'hôtel du Baroque, dont les jardins donnaient sur le quai de la Loire. Puis ils sont retournés chez le notaire, mais le père et la mère seulement, pour acheter une maison. Le petit Paul était de plus en plus déçu. Jusque-là, il avait espéré, plus ou moins confusément, que ses parents se fâcheraient avec le comte, se dégoûteraient de lui, de moi, du château, de la campagne, et que toute la famille retournerait à la mer, sinon cette année-ci, du moins l'année suivante. Mais la maison, une fois acquise, il était évident qu'elle ne resterait pas vide et qu'on y reviendrait. Le plus drôle, c'est qu'en effet, les Barbichoux se sont fâchés avec le comte l'été suivant, en 1937, car au lieu d'utiliser l'argent qu'il avait emprunté à des travaux de réfection dans sa vieille demeure, M. de Cracougnas avait préféré le dépenser à Paris. Je n'ai jamais su à quoi d'une façon précise. Madame Barbichoux, surtout, était très mécontente. Quant au remboursement, il était reporté à plus tard, bien plus tard. En fait, je peux vous le dire tout de suite, les parents du petit Paul n'ont jamais revu l'argent qu'ils avaient avancé. Seulement voilà, pour petit Paul, c'était trop tard. Ses parents possédaient la nouvelle maison, l'avaient aménagée, rafistolée, meublée. Ça leur avait coûté très cher et ils entendaient bien en profiter le plus possible. Ils continueraient donc de revenir tous les ans, avec cette seule différence qu'ils ne fréquenteraient plus les gens du château. Petit Paul se voyait pour longtemps, très longtemps, séparé de la mer. C'est alors qu'il s'est mis à rêver. Je suivais toutes ses pensées, du moins quand il était en moi. D'une façon générale, j'ai l'habitude de suivre jour après jour toutes les pensées de mes habitants, car mon âme, après tout, n'est pas autre chose que la leur. Mais ces pensées, à lui, me plaisaient particulièrement, me paraissaient profondes, poétiques, touchantes. La première fois, c'était une nuit de la première quinzaine d'août, en 1937. Il avait fait très chaud la journée précédente. Les pierres, les murs, les maisons qui avaient absorbé toute la chaleur du jour continuaient de la dégager, même après minuit. Quand on venait des champs, qui avaient tout de suite fraîchi, on s'en apercevait immédiatement. Petit Paul dormait dans sa chambre, sur son lit, à peine couvert, la fenêtre ouverte. Dans son sommeil, il entendait vaguement quelque chose qui tintait, susurrait, murmurait. Il ne savait pas trop si c'était le chant des grillons, son propre sang dans ses oreilles, ou seulement le silence, ce grand silence de la campagne endormie, si extraordinairement profond qu'on le perçoit comme une rumeur. En rêve, petit Paul se levait, descendait l'escalier, sortait de la maison, marchait jusqu'au bout du jardin. Mais le jardin était devenu si long, qu'il aboutissait, non plus au quai de la Loire, mais au bord de la mer, à une grande plage de sable où de grandes vagues noires, brillantes et veloutées, venaient de loin, très loin, mourir en murmurant les unes après les autres. Tout près de là, derrière une avancée de rochers, se devinait la présence d'un petit port de pêche, et ce petit port était moi, oui bien, moi-même, Saint-Déodat, tel que le petit Paul me voyait dans son rêve. J'étais profondément ému. Les paysans qui m'habitaient ne rêvaient pas beaucoup et jamais à d'aussi jolies choses. J'avais comme une envie d'obéir à ce petit garçon et de me transporter au bord de l'océan. Je me souvenais, après tout, d'avoir été à un port et ça m'aurait bien plu, tout compte fait, de le redevenir. Bien sûr, ce n'était qu'un rêve. Je rêvais, moi aussi. Je ne croyais même pas que la chose fût possible, et petit Paul ne le croyait pas non plus. Il se consolait de son mieux, le pauvre môme, en imagination. Nous nous consolions tous les deux, lui de sa nostalgie comme moi de la mienne. Nous ignorions encore que l'imagination est une force véritable, énorme, qui travaille lentement dans la patience et le repos, mais souvent supérieure à la volonté même. Pendant tout cet été, jusqu'à la fin du mois de septembre, car à cette époque-là, les écoles ne rouvraient qu'au premier jour d'octobre, petit Paul a rêvé, quasiment chaque nuit, qu'il descendait dans son jardin jusqu'à la mer, tantôt pour y nager, tantôt pour y pêcher, souvent aussi pour naviguer dans une embarcation magique. Et moi, je rêvais avec lui. L'automne suivant, une fois les barbichoux retournés à Paris, j'ai essayé pour voir d'envoyer une partie de moi-même sur la côte atlantique. À ma grande surprise, du premier coup, j'ai réussi. Une des dalles de mon quai, avec son gros anneau de fer, s'est transportée un beau matin tout au bord de la mer, dans une petite crique, un abri naturel complètement désert, mais qui pouvait très bien servir à constituer un mini-port de pêche. Tout à côté, une plage de sable fin descendait en douceur jusqu'au ras des vagues. Le site était pareil, exactement pareil à celui dont nous rêvions, petit Paul et moi. Les gens de Saint-Déodat ne se sont aperçus de rien. Le lendemain seulement, une petite vieille avec son petit vieux, qui se promenait dans le secteur, en ont dit quelques mots. Le petit vieux d'abord a grommelé vaguement. « Dis donc, la vieille, est-ce qu'il n'y avait point une grosse pierre ici avec un anneau? Quoi donc elle est devenue ?» Mais la vieille a haussé les épaules. « Penses-tu? Si elle y avait été, elle y serait encore, pas vrai? Qui veux-tu qu'il l'ait prise ?»« Ouais, ouais, » a fait le petit vieux d'un air de doute et d'indifférence, et il n'en a plus soufflé mot. Encouragé par ce résultat, j'ai transporté la nuit suivante un lampadaire qui s'est mis à briller chaque soir, pour lui tout seul, sur la crique, au milieu des embruns à l'odeur de sel. Et puis ça a été le tour de quelques pans de murs, isolés et croulants, qui ne servaient à personne. Ensuite, j'ai envoyé, sur mon nouvel emplacement, trois ou quatre maisons, une en ruine, isolée, puis une autre, restée entière, mais complètement vide et que personne n'habitait plus depuis au moins deux générations. Puis deux autres, enfin, qui étaient occupées, mais par de pauvres gens, presque dans la misère. Alors seulement, mes habitants se sont un peu émus. Monsieur Dalor, qui était mon maire, a fait des recherches. Il a cru tout d'abord que de mauvaises gens venaient voler les pierres. Mais quand on lui a dit que les bâtiments disparus se trouvaient à 300 kilomètres de là, sur la côte vendéenne, il a voulu résister. Il a fait revenir à grands frais le lampadaire de la commune, parce que c'était le seul et qu'il avait coûté très cher à la municipalité. De son côté, l'abbé Seder, qui était mon curé, parlait d'exorciser le village, c'est-à-dire moi-même. À ce qu'il prétendait, c'était le diable en personne qui me hantait, me possédait, avec la permission de Dieu, bien sûr, pour me punir de mon impiété. C'était une calomnie. Je n'ai rien à voir avec le diable et je n'ai même pas l'honneur de connaître ce monsieur. Je dois avouer, cependant, que mes braves citoyens n'allaient guère à l'église, si ce n'est pour les baptêmes, les mariages et surtout les enterrements. À part cela, le dimanche matin, les hommes bricolaient chez eux ou allaient au café pendant que leurs femmes, leurs filles, et encore pas toutes, assistaient à la messe. La religion, chez nous, c'est comme la cuisine ou le soin des moutards, c'est l'affaire des femmes. Dès les premières semaines de janvier 1938, la petite guerre a commencé pour de bon entre moi d'une part, mon maire et mon curé de l'autre. J'ai renvoyé d'abord le lampadaire au bord de l'océan. Et puis, presque aussitôt, j'y ai transféré plusieurs habitations avec les familles qui les habitaient, rien que pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Deux ou trois de ces familles sont revenues dans les jours qui ont suivi. Elles préféraient apparemment leur champ à leur demeure. Les autres, pas contrariantes, sont restées près de la mer, se sont mises à pêcher, à cultiver tranquillement les terres avoisinantes. Dès lors, ma petite population s'est divisée en deux parties. Les uns, qui avaient compris où je voulais en venir, acceptaient de me suivre, les autres s'accrochaient sauvagement à leur sol. Ils refusaient de savoir, ils refusaient de comprendre, ils soutenaient mordicus qu'il fallait résister jusqu'au bout à ce qu'ils appelaient les entreprises du démon. Mon maire et mon curé, vous vous en doutez bien, étaient de cet avis. Alors moi, dans la nuit du premier samedi au premier dimanche de février 1938, j'ai frappé un grand coup. J'ai transporté cette fois mon église tout entière dans mon nouveau site. En arrivant ce matin-là pour dire sa messe, l'abbé Seder n'a retrouvé du lieu sacré que la place vide. Le pauvre homme s'est mis alors à faire des signes de croix dans toutes les directions, puis il m'a parcouru d'une maison à l'autre en demandant aux paysans de lui donner beaucoup d'argent pour construire un nouveau sanctuaire. Malheureusement pour lui, mes braves paroissiens n'ont pas donné, sinon par-ci par-là, des sommes ridicules. Mettez-vous à leur place. Eux-mêmes se demandaient s'ils n'allaient pas bientôt suivre le même chemin que leur église, avec leurs fermes et leurs bestiaux. À quoi bon reconstruire dans ces conditions ? Monsieur l'abbé, dès lors, a cessé de lutter. « Si la demeure du Seigneur elle-même, disait-il, s'est envolée comme par magie, c'est sans doute que Dieu l'a voulu. » En l'entendant parler ainsi, le maire, Monsieur Dalor, s'est fâché tout rouge. « Et la peste, mon père, et toutes les maladies, Dieu les a bien voulu aussi, pas vrai ? Est-ce que c'est une raison pour ne pas se soigner ?» Mais le bon prêtre ne résistait plus. Voyant qu'il passait de mon côté, je ne lui ai pas laissé le temps de se repentir et je l'ai proprement expédié la nuit suivante auprès de son église avec son presbytère, sa servante et son chat. Pendant les mois suivants, j'ai continué, sans hâte mais sans cesse, à transporter mes villageois, leurs maisons, leurs outils, leur bétail. J'ai commencé bien sûr par les plus favorables. Ceux qui se résignaient à leur nouvelle vie. Les autres, pendant ce temps, réfléchissaient encore et discutaient entre eux. C'étaient généralement les gros paysans riches, ceux qui avaient les plus belles terres de la commune. Ceux-là, je me les gardais pour l'acte final. Enfin, le 17 juillet 1938, les barbichoux sont revenus, comme de coutume, pour les vacances, et se sont installés dans leur maison, à laquelle je n'avais pas touché. Le lendemain de leur arrivée, bien sûr, ils ont appris par les commerçants tout ce qui s'était passé dans le courant de l'hiver. Pendant des jours, pendant des nuits surtout, je les ai suivis attentivement, eux, leurs pensées, leurs rêves. Madame Barbichou n'était pas tranquille. Cette histoire-là ne lui plaisait guère, mais j'ai vite compris qu'elle s'était attachée à ses murs beaucoup plus qu'au pays lui-même. Au fond, depuis sa rupture avec le comte de Cracougnas, il lui importait assez peu d'être ici ou là. Ce qu'elle craignait surtout, c'était que la maison souffre pendant le voyage. Elle ne me connaissait pas. Monsieur Barbichou, lui, était indifférent. Il ne détestait pas la campagne, mais préférait la mer. Ce qu'il désirait surtout, c'était d'éviter les scènes, les discussions, les histoires. D'un caractère facile, placide et confiant, il avait pris le parti d'être toujours heureux. Petit Paul, lui, m'avait compris dès le premier jour. Son cœur et le mien, c'était le même. Le 30 juillet, à 3 heures du matin, j'ai dit adieu à ma bonne vieille Loire et je me suis envolé tout entier, sans retour, jusqu'au bord de la mer, avec cette fois ma perception, mon bureau de poste, ma mairie, mes sapeurs-pompiers, mon médecin, mon notaire, bref, toutes mes puissances et toute mon administration. Je n'ai laissé en son lieu que le château de Cracougnas qui ne m'intéressait pas. J'ignore même, et je veux ignorer, s'il existe encore aujourd'hui. Pour ce qui est de la maison des Barbichoux, je l'ai fait voyager avec une douceur toute particulière, sans une trépidation, sans même une secousse. Pas un carreau ne s'est cassé, pas un meuble ne s'est déplacé, pas une lame de parquet n'a grincé. Je lui avais réservé tout exprès le plus bel emplacement, pas loin du port, mais sur la plage, de sorte qu'arrivé au bout de son jardin, petit Paul n'avait plus qu'à franchir une grille et à traverser une rue pour se trouver au bord de la mer, exactement comme dans ses rêves. Je m'attendais à quelques résistances de mes gros paysans, mais non. Ils regrettaient leur terre, c'est sûr. Les hommes juraient, geignaient, les femmes pleuraient un peu. Au fond d'eux-mêmes, pourtant, ils n'étaient pas si malheureux. C'est qu'ils avaient caché, depuis déjà longtemps, dans l'épaisseur de leurs murs, des liasses de papier, des titres, de l'argent, bref, des tas de valeurs auxquelles ils tenaient par-dessus tout. Alors ils ont vendu leurs terres du bord de la Loire à d'autres villageois des communes voisines pour acquérir de nouveaux champs, là où je les avais mis, et ils ont continué de s'enrichir. À l'heure où je vous parle, ils continuent encore. Mon maire, M. Dallor, a très bien réagi, je dois le dire. C'était un homme réaliste et un excellent administrateur. Quand il a vu qu'il n'y avait plus d'espoir de revenir au passé, il a bravement pris son parti de la situation nouvelle et il a tout organisé pour le bon fonctionnement de sa commune. Et il est mort maintenant. Il y a eu depuis la drôle de guerre et l'occupation et la 4e République, puis la 5e. Les parents du petit Paul sont morts également, mais petit Paul et moi, nous avons réalisé notre rêve. Je suis toujours un port de mer et j'entends, comme on dit, le rester. Mon ami le vieux Paul, car il est vieux maintenant, n'habite plus Paris. Il s'est retiré en moi dans sa maison au bord de l'eau pour vivre sa retraite. Il coule en ce moment des jours paisibles en regardant se briser les vagues qui viennent de loin, très loin. Nous nous aimons toujours beaucoup, lui et moi.